David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Renaud, bonjour à tous, bonjour Luc Ferry.
Et on commence par la réforme des retraites qui joue à qui perd gagne.
La réforme est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. C'est l'occasion pour les Échos et Libération de nous expliquer qui va y gagner et qui va y perdre. Pour Libération, la réforme ne fait que des perdants, évidemment. En particulier les carrières longues et pénibles qui partiraient à 62 ans au lieu de 60, les femmes. La réforme ne corrigerait aucune inégalité. La génération 66 des salariés de 56 ou 57 ans qui devront cotiser plus et attendre à 63 ans et demi pour partir. Les Échos nuancent le bilan négatif de Libération. Les femmes travailleront certes plus longtemps, mais gagneront plus une fois en retraite. Face à l'ampleur de la mobilisation jeudi, Cécile Cornudet des Échos observe dans son édito le gouvernement changer d'éléments de langage. Une retraite plus tardive, mais des pensions plus élevées. C'est le nouvel argument, plus ou moins bien défendu par les ministres en mission ce week-end. Dans le Figaro, Gaëtan de Capelle parle d'une réforme aux inquiétants défauts de fabrication et d'une communication présidentielle et gouvernementale qui marche en crabe. En réalité, ça branle du manche au gouvernement et dans la presse, certes, il faut réformer, mais personne n'en voit clairement les avantages.
Dans les Échos, de quoi s'inquiéter, David, pour l'indépendance alimentaire?
Papier en page 21 du deuxième cahier des Échos qui a lui aussi un rapport avec la réforme des retraites. Paradoxalement, la France produit de moins en moins de bœuf. Pourquoi? Parce que les agriculteurs qui partent en retraite ne sont pas remplacés. En un an, nous avons perdu 110 000 vaches, explique une experte de l'Institut de l'élevage. Les installations ne compensent pas les départs en retraite. Résultat, les importations de bœuf pour satisfaire les besoins des fast-food français ont grimpé sur 10 mois de 24%. Et c'est pas avec les jeunes qui manifestaient samedi qu'on va résoudre le problème, croyez-moi. Dans l'opinion, Marie-Christine Beut brocarde les mots d'ordre lancés ce samedi par les plus jeunes des manifestants. Métro, boulot, caveau. Le travail, c'est la mort.
C'est plutôt mignon, métro, boulot, caveau.
Ça vous oui. Amuse, vous? Moi, ça me désespère. 60 ans ou la mort. Ces formules nauséabondes montrent que la propagande des insoumis fait son chemin. Des slogans d'autant plus scandaleux et débiles qu'ils sont assénés par de jeunes étudiants en droit, en philo, Luc Ferry, en sciences politiques. Des étudiants qui ne risquent pas de s'engager dans des carrières pénibles.
Voilà, il est en pleine forme, hein, David, ce matin. Alors, il y a les jeunes anti-réforme et puis il y a les jeunes qui pensent que la Terre est plate. Parce qu'elle n'est pas plate, la Terre, David.
Il paraît qu'elle n'est pas plate.
Ah bon.
Après les slogans démagos sur le travail, la remise en cause de la science par la jeune génération. Elle fait la une du Parisien aujourd'hui en France. Et la science contre-attaque, titre le quotidien, avec ses armes. Elles sont faibles face à la bêtise mondiale. 20% des vidéos que partagent les jeunes sur TikTok à propos de l'actualité contiennent des contre-vérités. Une enquête récente réalisée par l'IFOP révèle qu'un jeune sur 6 juge possible que la Terre soit plate. Sur TikTok circulent donc les pires âneries. La crème solaire est dangereuse, affirme une naturopathe canadienne. D'anciens candidats de télé-réalité l'affirment. Il existe un médicament contre le cancer, mais les médecins empêchent son utilisation, car accueillir des malades à l'hôpital, ça rapporte. Face à la bêtise qui insiste, le Parisien aujourd'hui en France présente les initiatives de profs qui vont parler science sur les réseaux sociaux, de vulgarisateurs du Centre National d'Études Spatiales qui sur ces mêmes réseaux sociaux expliquent, font de la pédagogie scientifique pour tenter de faire comprendre que la Terre est ronde, que l'homme a bien marché sur la Lune et qu'il est le produit d'une longue évolution, ce que contestent encore pas mal d'obscurantistes. Jean-François Clairvoy, astronaute et ingénieur, se désole et fait ce constat. Quand je visitais des classes autrefois, les jeunes me disaient qu'ils voulaient être physiciens, ingénieurs, pilotes de ligne. Ils me disent aujourd'hui vouloir gagner de l'argent ou être influenceurs. Quelques pages plus loin et sur un autre sujet, vous lirez dans le Parisien comment les smartphones des ados ne font pas seulement circuler des contre-vérités scientifiques, mais également des messages haineux ou moqueurs qui ont probablement conduit à la mort de Lucas, 13 ans, victime de brimades répétées et subies du fait de son homosexualité. À lire ensuite dans le Figaro les conseils du journal sur le contrôle parental et la protection des enfants contre les excès du numérique.
David, dans le Figaro, une enquête sur ces orchestres dirigés par des chefs toujours plus jeunes.
À 22 ans, le chef finlandais Tarmo Peltokoski vient d'être recruté par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Est-ce trop jeune ? S'interroge le journal, qui rappelle que diriger un orchestre suppose maturation et expérience. Klaus Makela avait 24 ans quand il a été nommé à la tête de l'Orchestre de Paris. Lahav Chani avait 27 ans quand il a été choisi pour diriger le Philharmonique de Rotterdam et d'Israël. On s'en étonne, mais le journal rappelle que Bernard Haitink a été nommé sans expérience à la tête du Concertgebouw, que Toscanini avait 31 ans quand il a dirigé la Scala. N'empêche, explique le Figaro, comme les clubs de football, les orchestres recrutent des chefs talentueux de plus en plus jeunes, comme les clubs de foot donc. Le risque est grand de se griller quand on est trop jeune à la tête d'une grande formation orchestrale. Que vaut-il mieux, être à la tête d'un orchestre qui se dirige tout seul ou bien faire ses preuves en dirigeant une petite formation qu'on emmène ensuite en première division ? Le Figaro interroge Jasper Parotte, cofondateur d'une agence qui représente des chefs et des musiciens prestigieux comme Paavo Järvi ou Vladimir Ashkenazi. Il lui pose cette question. À quoi mesure-t-on le talent d'un artiste de 20 ans? Et Parotte répond à deux choses. La première, c'est la profondeur du savoir, sa connaissance de la musique et pas seulement la musique orchestrale. Le second facteur est plus abstrait. C'est ce que Cicéron nommait « ad flatus ». Le souffle d'un délire divin. Lorsqu'on le perçoit chez un tout jeune, on peut être certain que ce dernier ira loin.
Voilà, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs de vous quand vous étiez tout petit, mon cher David.
Oh là là, moi j'étais laborieux vous et lent et ça continue.
David Abiker, 22 ans la semaine prochaine et à la tête de la revue de presse de Radio Classique. Merci David. Dans un instant, vous allez retrouver le très jeune Luc Ferry pour Esprit Libre. Il est 8h39 sur notre antenne.